Et allez, le mot de la semaine, je sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, c'est union. Je n'arrive toujours pas à savoir, Ben Aouda, si l'Europe est unie ou désunie dans cette crise face aux États-Unis. Maintenant, l'Inflation Act, on essaye de montrer les dents, mais est-ce que c'est une mise en scène? Même chose vis-à-vis de la Chine. Où est-ce qu'on en est? Vaste sujet. Hein.
Très vaste sujet, mais plus les semaines passent, plus on s'enfonce dans cette crise géopolitique majeure en Europe, à l'est de l'Europe, et ça donne l'impression d'une Union européenne qui subit les événements et qui court tout le temps après la décision. Et le fait est que l'écart par rapport aux États-Unis dans la maîtrise des événements est de plus en plus flagrant. C'est le service extérieur de l'exécutif européen qui ne cesse de dire que les États-Unis, toujours en off bien entendu, jamais en on, c'est-à-dire jamais publiquement, ouais, que les États-Unis sont ceux qui, de plus en plus, tiennent la barre dans ce conflit et en tirent bénéfice, soit au travers des tarifs de l'énergie, soit au travers de la vente des armements, soit dans le pilotage de la construction européenne, au sens où les États-Unis sont en train d'imposer de pas à pas l'idée que le centre de gravité de l'Union européenne se déplace vers l'Est et vers le Nord. Cette semaine, il y a un chef militaire américain positionné en Europe qui a déclaré que la Pologne était le partenaire le plus important actuel du Pentagone au sein de l'Europe, faisant fi en cela du malaise qu'il y a entre Varsovie et les institutions européennes, qui estiment que le régime en place, enfin le gouvernement en place, la majorité nationale conservatrice en place en Pologne, foule au pied l'état de droit tel qu'il est conçu au travers de l'article 2 et de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Premier point. Et cette idée que le centre de gravité n'est plus, somme toute, celui des principales économies de la zone euro, c'est-à-dire France, Allemagne.
En tout cas, il est déjà plus du tout avec l'Europe du Sud.
Ah non, mais ça.
C'est l'Est et l'Europe centrale.
Exactement.
Ça y est.
Exactement. Et c'est frappant de voir, par exemple, le ministre letton de la Défense et juger que l'Allemagne doit prendre ses responsabilités, croiser le fer avec la Russie dès lors que les États-Unis ont décrété que ce centre de gravité s'est déplacé vers l'Est. L'Allemagne ne rentre pas dans ce jeu pour l'instant, mais...
Elle ne rentre pas dans ce jeu, mais on la sent se détacher de plus en plus de la France. On la sent évidemment se détacher de l'Italie, de l'Europe du Sud, et on la sent tourner ses regards vers la zone qui est un peu sa zone naturelle d'influence, qui est l'Europe de l'Est et centrale.
Oui, mais il y a un tel écart de conception de la notion de la construction européenne entre Berlin et Varsovie, d'ouverture à l'international, de conception de l'identité nationale, de conception de l'état de droit, l'idée simplement que on délaisse Paris pour Varsovie n'a absolument aucun sens vu de la classe politique allemande. Un dernier point, ce qui est frappant, c'est que même lorsque l'Allemagne essaye de prendre l'initiative, par exemple, en décidant de donner des systèmes de défense anti-aérienne patriotes à la Pologne pour la couverture de sa frontière avec l'Ukraine. Vous avez ensuite la Pologne qui demande à l'Allemagne que ces systèmes de défense anti-aérienne aillent à l'Ukraine. Donc, mettent dans l'embarras la classe politique allemande. Donc, l'impression de tout le temps subir et de jamais être à l'initiative, de jamais maîtriser les événements. Et ça, c'est de semaine en semaine.
Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a beaucoup d'éléments, mais il y a aussi ce déséquilibre de plus en plus fort entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce qu'on le ressent de façon économique? Est-ce que ça vous inquiète, vous, les économistes?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des États-Unis qui sont indépendants d'un point de vue de l'énergie, alors qu'en zone euro, aujourd'hui, on est quand même impacté par un prix de l'énergie qui est élevé et qui peut rester durablement élevé. Et on peine aujourd'hui en Europe à trouver une réponse commune à ces prix de l'énergie extrêmement élevés.
On va en parler tout à l'heure, évidemment.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui? On met en place des politiques budgétaires, surtout au niveau national. Alors, pour moi, ces politiques budgétaires ne sont pas contestables si c'est pour réduire notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie, si c'est pour financer notre transition vers une économie plus verte. Mais ces politiques budgétaires qui sont considérables sont beaucoup plus discutables si c'est pour soutenir la demande dans un contexte où on peut avoir une crise sur l'énergie qui perdure et si ces soutiens ne sont pas très ciblés. Pour moi, il y a deux inconvénients à ces politiques. Le premier, c'est qu'on va maintenir à moyen terme les pressions inflationnistes. Et le deuxième, c'est comment les financer, surtout dans un environnement où la BCE aujourd'hui, à cause des niveaux d'inflation élevés, est en train de réduire son soutien. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur les marchés de la dette des États en zone euro, ce que vont devoir absorber les investisseurs en termes d'émissions nettes des achats de la BCE, c'est simplement du simple double entre cette année et l'année prochaine.
D'accord. Et la BCE va quand même dans sa politique anti-fragmentation. C'est-à-dire, je rappelle ce que c'est de dire on veut pas trop d'écart de taux d'intérêt entre les pays périphériques et l'Allemagne. Vous pensez qu'elle va pas continuer à acheter de la dette des États?
Pour l'instant, depuis, en termes d'achats nets, les achats nets sont terminés depuis cet été. Et l'objectif, le TPI, c'est plutôt une réallocation des montants qui arrivent à maturité, qu'elle a déjà dans son portefeuille. Et le problème là dont je parle, c'est pas tellement un problème de fragmentation financière, mais plus un problème de pression sur les taux sur la zone euro, de montants qu'on va devoir financer pour financer ce soutien à la demande ou ces investissements, de montants de dettes qui vont arriver sur le
marché. Alors je sais qu'on peut pas raisonner sur du très court terme, mais ce qui est très étonnant, c'est que l'euro a rebondi et le dollar est un peu baissé. Bon, alors certes, il avait énormément progresser, mais ça peut paraître étonnant par rapport à ce que vient de dire Ben Aouda et ce que vous dites vous-même. On sent chez vous deux, pour des raisons un peu différentes, une inquiétude très forte de déclassement. Ah, le mot est un peu fort, mais un peu de déclassement, non
Tout à fait. Il suffit, je vous me dirai que ce n'est pas une référence, mais il suffit de regarder les médias d'État chinois, comment ils abordent et comment ils sont en train de jouer cette divergence euro-américaine avec l'idée qu'il y a un vassal et un maître.
Exactement. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que gérant? Est-ce que vous dites du coup par rapport à vos clients, en ce moment on mise tout sur les États-Unis et on arrête la zone euro?
Pas du tout, en fait. Il y a une vraie dichotomie quand même dans nos décisions. Quand on fait des décisions d'investissement, qu'on regarde les marchés financiers, nous on va regarder les niveaux de valorisation, qu'est-ce qui est sous-coté, qu'est-ce qui mérite d'être regardé de nouveau. Donc je ne dis pas qu'on fait fi des raisonnements économiques, c'est juste pas possible. Mais néanmoins, c'est...
Et géostratégique.
On ne peut pas, en tant que gérant, on ne peut pas de toute façon prévoir les événements géopolitiques ou les chocs exogènes. Donc on est obligé de regarder plein d'autres caractéristiques. Néanmoins, moi je vous trouve quand même un petit peu dur avec l'Union européenne. Parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est conjoncturel parce qu'on a un faisceau d'événements aujourd'hui qui met les États-Unis clairement dans une position de force, qui les met de nouveau comme le créancier du monde. Mais malgré tout...
Mais au-delà du créancier du monde, ça va beaucoup plus loin parce que si c'est les budgets militaires sur les 10 ans qui viennent, c'est le réarmement de l'Allemagne, c'est des pays neutres comme la Finlande et la Suède qui redeviennent, qui rentrent dans l'OTAN.
Regardez, l'OTAN a quand même un tout petit peu meilleur presse qu'avant. Il y a quand même des avancées. Oui, l'Europe s'est quand même construite sur des événements pas évidents. La chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS. Aujourd'hui, on observe en fait un peu de notre fenêtre le côté un peu conjoncturel. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir dans 4, 5, 10 ans où on en est sur la construction de l'Union européenne. Et je trouve qu'il y a quand même des avancées. Il y en a eu après la pandémie avec la dette commune. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir quand même avec des décisions budgétaires sur l'armement? Tout ça, ça va être intéressant à observer.
Ou sur la transition climatique? On peut avoir une politique européenne de transition énergétique.
Ça. Et à chaque fois, elles sont un peu pénalisées parce qu'il y a des événements quotidiens qui font que. Mais je trouve que la tour d'observation, il faudrait qu'on l'élargisse sur le temps, en tout cas.
Pierre, on sent que vous avez envie d'intervenir.
Nous, on a une vue constructive sur l'Europe. Alors, en fait, l'atermoiement, le flottement qu'on sent aujourd'hui, il est tout à fait compréhensible. Nous, de notre point de vue, l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Voilà. Le couple franco-allemand était dominé par les...
Qui n'existe que dans l'esprit des Français.
Le couple franco-allemand était dominé par les Allemands sur les 20 dernières années pour plein de raisons. Et aujourd'hui, il y a un passage de témoin. Pourquoi ? Parce que les Allemands, ils n'arrivent pas à trancher des sujets clés du moment. L'énergie, les relations internationales, la protection des États-Unis dans l'OTAN, leurs relations avec la Chine. Donc ils sont face à ils doivent trancher des questions de modèle et qui vont prendre du temps à trancher. En plus, les Allemands prennent du temps parce qu'ils discutent. C'est un modèle de consensuel, de compromis permanent. Et donc, toutes ces questions vont mettre beaucoup de temps. Si on dit 10 ans, on est peut-être dans cet ordre de grandeur. Donc ça va mettre beaucoup de temps. Cet atermoiement affaiblit la puissance politique de l'Allemagne au sein de l'Union. qui est le qui reprend le flambeau, c'est la France obligatoirement.
Et
c'est
pour ça que je suis d'accord. Pas d'accord avec vous.
Je suis d'accord avec Ben Awad quand on dit l'Allemagne va se tourner vers Varsovie, mais c'est si on laisse tomber la France, il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe. Donc les principaux bénéficiaires de l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne n'a aucun intérêt à laisser tomber. Et maintenant, si on se projette dans un horizon de temps de 5 à 10 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Europe est un tournant énergétique. L'Europe a toujours été dépendante du monde pour l'énergie. Avec la révolution verte, les choses vont considérablement changer. Et je peux vous dire que le solaire, parce qu'on a un fonds, je travaille également sur un fonds environnement, le solaire, c'est le coût marginal de l'énergie solaire, c'est zéro. Donc les parcs qui auront 20 ans dans 20 ans, nous donnerons du mégawattheure autour de 40 ou 50 euros du mégawattheure. Donc oui, ok, on passe un moment difficile qu'on a déjà vécu dans les 70. On sait comment ça se passe. Mais moi, je demande juste aux gens, dans leur vision de l'Europe et de la France en particulier, se projeter un tout petit peu derrière la butte, l'obstacle qui se présente aujourd'hui.
Ah, c'est intéressant, hein. Vous avez bien fait de relancer. Valentine, juste sur l'énergie. L'idée que l'Europe peut devenir indépendante énergétiquement avec les
États-Unis. Il faut un peu de temps, hein. C'est pas un horizon de 3 à 5 ans, hein.
On
y travaille. Pourquoi pas? Après, on peut pas, je veux dire, il faut aussi comprendre qu'on peut faire des nouvelles avancées en termes de technologie, mais ça, on est plus en train de parler à un horizon d'il y a 10 ans, dans 10 ans. Donc, à court terme.
Mais est-ce que ça vous rassure ce qu'il dit ou pas du tout sur notre
débat? Je dirais, il faut pas tomber dans un... Il ne faut pas être trop pessimiste, mais ça, ce n'est pas un scénario pour nous pour les 2-3 prochaines années. Les 2-3 prochaines années, le scénario qui se dessine pour nous, c'est est-ce qu'on va être de nouveau alimenté ou pas par le gaz russe via les pipelines? C'est cette question qui, pour moi, est importante pour notre scénario pour l'Europe pour l'année prochaine.
Ben Aouda, ce scénario que je ne partage pas, hein, de l'affaiblissement de l'Allemagne et d'atermoiement que je ne vois pas, où je pense que ça va être réglé, non pas en 10 ans, mais en quelques mois, et que ça profitera à la France.
Pierre Chang a mis le doigt sur un point très important. L'Allemagne est une véritable démocratie parlementaire. C'est-à-dire qu'on débat. Ça peut durer des mois et des mois, et voire des années. Donc, premier point. Deuxième point, on assiste, là, il faut se fonder sur des faits, à une forme de rappel à l'ordre ces derniers jours, assez général et à travers l'ensemble de la classe politique allemande, de l'importance de ce tandem, cet axe, ce couple, peu importe, hein, ce partenariat franco-allemand.
Même en Allemagne.
D'accord. Et je vais donner qu'une seule illustration. Vas-y. L'interview de Joschka Fischer, l'emblématique chef de la diplomatie allemande de 1998 à 2005, vraiment quelqu'un qui a pensé les relations internationales, qui estime que Olaf Scholz doit maintenant réinstaurer l'idée de l'importance écrasante de la relation franco-allemande au sein de l'Union européenne. Vous voyez ça dans la presse bavaroise, dans la presse berlinoise, l'idée que on n'a pas prévenu les Français concernant les 200 milliards d'euros de relance. On n'a pas prévenu les Français pour les 100 milliards pour le budget de la défense. Maintenant, il faut rétablir l'axe fondamental de la construction européenne, qui est l'axe franco-allemand. Après, chacun aura ses intérêts, etc. Mais ces derniers jours, c'est vraiment une tendance très importante.
Impressionnant.